Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Salut à tous, c'est Kevin et vous êtes sur RKS pour votre émission Rien à foutre, l'émission qui vous informe sur l'actualité footballistique en Isère. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour parler football et mettre en lumière nos clubs amateurs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle émission spéciale confinement avec un invité que l'on ne présente plus à Grenoble. Il a été joueur de foot professionnel, entraîneur au GF 38. Il est aujourd'hui l'entraîneur adjoint de Nicolas Usaï à Châteauroux. Mes amis, Olivier Saragaglia est mon invité aujourd'hui. Avec lui, nous reviendrons sur son parcours, sa carrière, son rôle d'adjoint à Châteauroux. Mais avant tout cela, on va démarrer comme d'habitude avec les principales actualités footballistiques de la semaine. Vous êtes sur RKS. Bienvenue dans Rien à foutre.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Eh ben, je me plaignais un petit peu de ces dernières semaines avec le confinement. On n'avait pas beaucoup d'infos à se mettre sous la dent. Bah, sachez que cette semaine, il s'est passé quand même pas mal de choses dans le monde du foot isérois, avec notamment une nomination et pas n'importe laquelle, puisque le FC Valais de la Grèce a trouvé enfin l'entraîneur qui remplacera Christophe Cuina à la tête de l'équipe 1. Donc on aura Manu Ribeiro, l'ancien entraîneur de la Murette, qui sera l'entraîneur donc du groupe 1. Il sera épaulé par Johan Meyer, qui sera son adjoint. Johan Meyer, qui sera également encore joueur pour encore quelques saisons, normalement. Mais effectivement, il sera également l'adjoint de Manu Ribeiro. On se réjouit de cette nouvelle. On sait que la Grèce cherchait activement un entraîneur à la hauteur. Et effectivement, Manu Ribeiro est plutôt, sur le papier en tout cas, un excellent choix. Donc on souhaite bonne continuation à ce club et à Manu Ribeiro dans cette nouvelle aventure. Autre info, on a également l'info de Kamel Ogbi, l'entraîneur, directeur technique et joueur aussi au CS Vorep, qui quitte le club de son enfance. Hein. Il a toujours été dans ce club-là. Et ben, il cherche un nouveau challenge en tant qu'entraîneur maintenant. C'est une information qui nous vient de notre ami Bachir de Gazon Isère. Voilà pour les actualités de la semaine. On retrouve Olivier Saragaglia en direct avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci hein, d'avoir accepté mon invitation, Olivier, ça me fait très plaisir. Comme je l'ai dit dans la petite introduction, tu es quelqu'un qu'on ne présente plus à Grenoble et tu as une place particulière, en tout cas, dans le foot grenoblois, dans les supporters grenoblois. Encore aujourd'hui, on parle de toi avec beaucoup de tendresse et de sympathie. Donc, merci en tout cas de me faire l'honneur d'être mon invité pendant le confinement. Je vais commencer par une première question que je pose à tous les invités qui viennent dans l'émission depuis le début du confinement. Comment ça se passe, ce confinement, pour toi ?
Bah, je pense que ça doit se passer un peu comme tout le monde, quoi. On trouve le temps long. Malgré tout, on essaye de s'occuper. Ouais. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on regarde des matchs sur l'ordi, je revois un peu des matchs de la Berrichonne, hein, de Ligue 2, là, du championnat de cette année.
Ouais.
J'essaie de faire un peu des résumés de nos adversaires aussi, qui nous restent à affronter, parce que je m'occupe de la vidéo aussi de nos adversaires, donc j'essaie de regarder tous nos adversaires pour m'avancer un peu sur le travail si le championnat devait repartir.
Ouais. T'aimerais bien qu'ils reprennent ce championnat, je suppose ?
Bah ouais, même si je pense que ça va être très compliqué, mais ce serait bien qu'il se termine. Alors nous, s'il devait s'arrêter là, on serait content parce que ce serait signe de maintien, mais c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on aime avant tout la compète, on aime le jeu, et puis là, je vous avoue que ça manque un peu, quoi.
Ouais, j'imagine. Bon, pas évidente du coup cette saison à Châteauroux. Quel regard tu jettes, toi, sur ces 26-28 premiers matchs de championnat ?
Bah, on a fait un début un peu chaotique, hein, on a fait une très mauvaise première partie de saison, notamment à domicile, où on s'est imposé qu'une fois sur la phase aller. Et puis on a rectifié le tir sur la phase retour, parce que sur le classement des matchs retour, on est troisième au classement. On a pris 16 points sur les matchs retour, donc on a vraiment fait une très bonne deuxième phase, quoi, un bon début de deuxième phase. Donc il reste 10 matchs, on a 8 points d'avance. On était dans le trou avant la trêve, là on a une bonne bouffée d'oxygène et on était plutôt confiants, quoi, on était sur une bonne dynamique. Donc c'est pour ça que c'est dommage que ce virus est venu perturber tout ça.
Ouais, ça vous a coupé un petit peu dans votre élan. Qu'est-ce qui a fait justement qu'il y a eu ce changement ? Parce que comme tu le dis, c'est pas anodin. Une victoire seulement en phase aller. Là, vous êtes troisième sur la phase retour. Comment ça, c'est quand même, on passe quand même presque du blanc au noir, si je peux le dire. Qu'est-ce qui a changé dans ce groupe?
Bah, c'est le groupe, il a eu la chance, on a eu la chance, nous en tout cas le staff, d'avoir un groupe qui a toujours été à l'écoute, qui a toujours été concerné et qui a bossé d'arrache-pied là, depuis le début de saison. Et c'est surtout nous, le staff, où il y a une remise en question. On était basé vraiment sur du jeu. Voilà, on voulait nous gagner les matchs en produisant du jeu. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas les armes pour le faire. Donc on a fait une grosse réunion avant la reprise, la trêve. Et on s'est dit qu'il fallait avant tout déjà assurer défensivement nos matchs et être un peu plus costaud. Et on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur l'aspect défensif. Et ça a porté ses fruits.
Bon, bah c'est parfait. Ouais. Et du coup, l'objectif pour l'année prochaine, si vous vous maintenez, ce sera d'assurer le maintien beaucoup plus vite, je suppose.
Bah, le club, est, même si c'est un club avec un petit budget, hein, parce qu'on est... On est mine de rien, on n'est pas le dernier budget de Ligue 2, mais pour l'équipe première, oui, on est le dernier budget, parce que il y a des clubs comme Chambly, Rodez, qui sont derrière nous au niveau budget, mais qui consacrent l'entière totalité du budget à leur équipe première. Mm-hmm. Ce n'est pas le cas, parce qu'on a un centre de formation. Donc on n'a que 6 millions pour l'équipe première. J'ai envie de dire que 6 millions, par rapport aux autres, c'est très peu. Mm-hmm. Donc, mais malgré tout, on a un club ambitieux, parce qu'on a un centre de formation qui fonctionne. On est un club sain et qui travaille sur la continuité. Donc l'ambition du club pour la saison prochaine, c'est de bien figurer dans la première partie et aller titiller les 6 premières places, comme on a pu le faire la première année de Ligue 2, où jusqu'à 4-5 journées de la fin, on était à la lutte pour la 6e place.
C'est le projet qu'on t'a vendu, toi, quand tu as rejoint le club en 2016?
Non, moi, quand j'ai rejoint le club, on était en national. C'était la dernière année de statut pro et le seul... objectif qu'on avait fixé, c'était d'accéder à la Ligue 2, sinon le club allait connaître des moments difficiles. Donc on a atteint cet objectif. Maintenant, c'est de stabiliser le club en Ligue 2 et pourquoi pas, à un moment donné, jouer les troubles faites pour une place de barragiste.
Ouais, ce serait beau en tout cas. On le souhaite à ce club et puis à toi personnellement pour ta réussite. Moi, j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de ton parcours, Olivier, le parcours de joueur, revenir un petit peu sur ta carrière. Tu as eu une carrière, donc tu as joué défenseur l'essentielle partie de ta carrière et du coup pas mal de passages, notamment par Grenoble, par Châteauroux justement. C'est pour ça notamment que tu avais décidé de retourner là-bas en tant qu'adjoint.
En fait, ça s'est fait avec Bruno Alleg, le président délégué, qui était à l'époque, moi quand j'étais joueur, était commercial au club. Ouais. Et j'ai toujours gardé de très bons rapports avec les dirigeants de Châteauroux, parce que j'avais laissé une bonne image en tant que joueur. Et j'ai toujours vanté les mérites de ce club familial. Ouais. Et Bruno Alleg m'avait contacté pour prendre l'équipe première, parce qu'il pensait que j'avais le BEPF, donc le diplôme qui me permet d'entraîner les pros. Chose que je n'avais pas, et donc il voulait à tout prix que je revienne quand même au club. Et il m'a alors proposé ce poste d'adjoint que j'ai accepté.
D'accord, ok. Et du coup, depuis, tu l'as obtenu ce BEPF ou pas?
Non, parce que c'est compliqué. Je dois aller au mois de mai, là, pour si c'est maintenu, pour la troisième fois au test de sélection. Il y a une centaine de dossiers, on est 40 à être retenus. Et sur les 40, il y a un entretien à la Fédé, et puis ils en retiennent 10. Donc je me suis présenté déjà deux fois, je n'ai pas été retenu deux fois, donc là j'ai mis une troisième fois, j'espère que ça va le faire, parce que c'est ce qui me manque pour pouvoir voler de mes propres ailes.
Ouais, bien sûr. Et tu sais pourquoi tu n'as pas été retenu précédemment ou pas du tout?
Ils ont imposé le BEPF en national, donc les deux fois où j'y suis allé, il y a beaucoup d'entraîneurs nationaux qui n'avaient pas de diplôme. Donc du fait que la Fédé l'impose en national, et ben forcément les entraîneurs étaient prioritaires, donc ça laissait très peu de place pour les adjoints comme moi. Donc j'espère que cette année ce sera la bonne.
D'accord. Et donc toi, l'idée quand même, une fois que tu l'as, c'est de reprendre une équipe en tant qu'entraîneur principal, je suppose.
Ouais, j'avais l'opportunité déjà cette saison. Des clubs, j'ai eu un club de Ligue 2 et deux clubs de national qui ont fait appel à moi par le biais de mon agent. Et qui pensait aussi que j'avais le diplôme. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être numéro un dans un club et de pouvoir travailler avec mes idées. Là, je bosse avec un super entraîneur là, avec qui je m'entends super bien, Nicolas Uzaï. Donc, on est vraiment complémentaires, on est très complices. Mais je bosse quand même avec ses idées à lui et j'aimerais imposer les miennes.
Oui, bah oui, je me doute bien que tu as envie de laisser ta patte encore plus. Et puis, on sait comment ça se passe. Hein, quand tu es adjoint, ouais. Tu es aussi beaucoup l'homme de l'ombre. Hein. Donc, on aimerait bien aussi avoir de temps en temps la lumière sur soi. Même si toi, finalement, au final, tu es quand même depuis là-bas, depuis presque 4 ans. Tu as passé 3 entraîneurs à Châteauroux. Donc, Nicolas Usaï est le dernier, mais il y a eu Michel Estévan et Jean-Luc Vasseur. Qu'est-ce qui a fait que eux sont partis et que toi tu es resté à chaque fois? C'est la confiance que le club a envers toi qui fait que tu as été dissocié un petit peu des résultats de ces entraîneurs-là?
La première année avec Michel Estévan, au départ je devais arriver numéro 1, je vous ai expliqué, une histoire de diplômes ont pris Michel Estévan. Oui. Donc après je me suis fait à mon poste de second, et puis à cette journée de la fin, alors que le club jouait la montée, on n'était que 6e au classement. Donc le club a décidé de séparer de Michel Estévan, et j'ai réussi à faire monter l'équipe. Ensuite, il y a eu aussi des pourparlers pour faire venir un prête-nom, mais j'étais pas très très chaud pour ça. Donc j'ai préféré, parce que c'est toujours compliqué de faire venir un diplômé et de le mettre sur la touche, quoi. Donc je préfère être numéro 1 le jour où j'ai le diplôme et pouvoir décider tout seul de qui m'accompagnera sur le banc de touche.
Oui.
Donc plutôt que qu'on m'impose quelqu'un, donc j'ai préféré retrouver mon poste d'adjoint. Ensuite, moi je suis sous contrat avec le club, donc quand il y a eu les décisions de séparer des entraîneurs, c'est le club qui l'a décidé, et puis à chaque fois ils m'ont demandé de faire l'intérim, ce que j'ai fait. Je suis sous contrat, donc je respecte mon contrat, même si c'est pas évident, parce qu'on crée des liens avec les entraîneurs, et c'est jamais facile de prendre comme ça en cours de saison. Voilà, donc, mais c'est le métier qui est comme ça, et ils l'ont très bien compris, que ce soit Michel Estévan ou Jean-Luc Vasseur, l'ont compris. Et à partir du moment où c'est pas moi qui fais un travail pour les éjecter, donc tout s'est bien passé, tout s'est fait entre adultes, et on a pu continuer.
D'accord. Et au niveau du contrat que tu as en soi avec la Berrichonne, il dure jusqu'à quand?
Moi, je suis en fin de contrat là, en fin de saison, au mois de juin.
D'accord. Ouais.
Donc, j'ai eu juste avant le confinement, j'ai rencontré les dirigeants, donc ils devaient me préparer mon contrat pour prolonger d'une saison supplémentaire.
D'accord.
Donc, que j'ai pas pu signer parce que c'est le confinement. Mais bon, je fais confiance aux dirigeants de Châteauroux, c'est des gens de parole, donc je suis certain qu'à la fin du confinement, ils me feront signer mon année supplémentaire.
Oui, j'en doute pas. Bah écoute, c'est super. On a au moins cette info-là, comme quoi ta prolongation est normalement dans les clous, et que sauf cataclysme, tu devrais rester entraîneur adjoint une saison au moins supplémentaire, en attendant justement d'avoir ce fameux BEPF.
Exactement.
Je voudrais qu'on reparle du coup de tes années joueur. Quel regard tu jettes, toi, sur ta carrière aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu ce que tu as fait? Pas mal d'années à Grenoble quand même. Il y a eu Châteauroux et le Red Star, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
Voilà. Quel regard tu jettes sur ta carrière aujourd'hui?
Je suis à la fois pas déçu, mais je peux avoir quelques regrets parce que je pense que je n'ai pas fait souvent les bons choix.
Oui,
j'ai eu quelques opportunités. À 18 ans, là, quand Grenoble a proposé mon premier contrat pro, alors que je commençais à jouer en Ligue 2, j'ai eu l'opportunité de signer à Brescia en Italie. Je pensais être trop jeune. À l'époque, ça ne se faisait pas trop de partir à l'étranger, mais quelque chose que je regrette, parce que ça m'aurait vraiment intéressé d'aller dans mon pays natal, quoi, pas natal, mais le pays natal de mes parents, dans toutes mes origines. Voilà.
Oui.
Et j'ai eu aussi l'opportunité, après le dépôt de bilan de Grenoble, de signer en Angleterre à Burnley. Je l'ai pas fait non plus, donc il y a eu des choix comme ça, avec le recul je me dis j'aurais pu tenter le coup.
C'est des choix parce que tu n'as pas osé aller à l'étranger, ou parce qu'il y avait quelque chose qui te retournait personnellement ici en France?
À 18 ans, quand on m'a proposé l'Italie, je commençais à jouer en Ligue 2 en France, j'étais dans mon club en plus formateur, donc j'étais fier comme tout, et je ne voulais pas partir. Mm-hmm. Et puis après, pour aller à Burnley en Angleterre, ça a été ma vie familiale, quoi. J'avais ma petite fille, ma femme qui est enceinte de mon fils aussi, donc Ah, c'était plus une raison familiale que je peux regretter aujourd'hui. Ouais, mais en même temps, si je suis ce que je suis aujourd'hui, si je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait tous ces choix-là. Donc, c'est un peu. Je dirais pas des regrets, mais je me dis, j'aurais bien aimé avoir tenté cette expérience. Oui. Mais je ne regrette pas d'être l'homme que je suis devenu aujourd'hui.
Mais tu as raison, il faut rien regretter de toute façon, choix c'est comme ça, le destin. Et puis voilà, mais tu as arrêté quand même tôt finalement ta carrière, parce que 30 ans je vois, 2001.
Oui, c'est ça.
D'accord, comment ça se fait?
Je devais signer à Besançon, au National, en finissant mon contrat au Red Star. Ouais. Et puis j'ai croisé Alain Fessler, c'était vraiment le hasard, je l'ai croisé pour un café au centre-ville de Grenoble. Ouais. Oui. Et il y avait une catégorie de 14 ans fédéraux qui se créait et ils cherchaient un entraîneur. Et Alain Fessler voulait faire revenir d'anciens joueurs. Et il me proposait un contrat pour entraîner, alors que je n'étais pas prêt pour ça tout de suite, quoi. Et après réflexion, je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être une opportunité. Donc j'ai accepté cette proposition plutôt que de continuer à Besançon. C'était en National avec Stéphane Paille à l'époque. Parce que je me suis dit, j'aurais peut-être pas l'opportunité plus tard, donc autant la saisir maintenant, même si c'était dur d'arrêter, mais c'est comme ça.
Au final, tu as fait le choix effectivement de devenir entraîneur. C'était quelque chose que tu voulais faire depuis un moment, que tu savais qu'en étant joueur que tu finirais entraîneur un jour, ou ça s'est fait vraiment plus tard?
Ça s'est fait un peu sur ma dernière année au Red Star. Je suis arrivé au Red Star à 30 ans, et puis il y avait des anciens là qui étaient là depuis des années. Et on a fait trois entraîneurs au Red Star, parce qu'on a connu une saison difficile. On a fait trois entraîneurs, et trois entraîneurs m'ont donné le capitanat.
D'accord.
Parce que j'avais cette faculté à recadrer un peu les gars, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain, à faire même des choix tactiques sur le terrain. Donc j'ai vraiment ça en moi, et je me suis dit, si les entraîneurs me font confiance comme ça, si les joueurs aussi me font confiance comme ça, c'est que je dois avoir quelque chose à ce niveau-là à creuser, quoi. Donc ça a commencé à me trotter quand j'étais au Red Star.
D'accord, ok, ça marche. Et donc après, naturellement, on te propose du coup de prendre cette catégorie des 14 ans fédéraux à Grenoble. Et là, petit à petit, du coup, tu es passé des 14 ans à la réserve de Grenoble.
C'est ça. Ah, j'ai fait trois saisons où j'étais responsable de la préfo, donc trois saisons avec les 14 ans. Ensuite, j'ai fait trois saisons avec les 16 ans nationaux. Mm-hmm. Et là, encore une fois, j'ai failli partir à Évian-Thonon. Ouais. C'était Patrick Trottignant, le président. Oui. Là, il y avait Duprat qui coachait, mais qui avait un boulot à l'ONU à l'époque. Ouais. Patrick Trottignant cherchait un adjoint justement pour assurer les séances d'entraînement. Donc j'ai rencontré le dirigeant d'Evian, j'ai failli signer là-bas, et puis Grenoble, pour me garder, m'avait proposé la réserve, parce qu'ils savaient que je voulais me rapprocher des pros, donc ils m'ont dit, nous, on compte sur toi, donc ils m'avaient proposé l'équipe réserve, donc en accord avec Bernard Blacquart, qui était le directeur du centre, donc j'ai accepté ce challenge, et j'ai fait 3 ans avec l'équipe réserve.
Alors que je comprenne bien, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, tu as refusé un poste d'adjoint de Pascal Duprat pour entraîner la réserve de Grenoble.
Exactement.
C'est ouf.
Parce que j'ai fait 3 ans avec les 16 ans nationaux, avec des générations extraordinaires. Hein. On avait fait 2 fois les phases finales. Donc, et puis, je me rapprochais un peu des pros, et j'irais un peu plus de pros et des seniors. Ouais. L'opportunité avec Duprat était intéressante. Et quand j'en ai parlé à un dirigeant de Grenoble, ils m'ont dit non, puisque tu veux te rapprocher des pros, on va te donner l'équipe réserve, comme ça tu auras des pros à gérer aussi qui redescendront, et tu seras un peu plus proche des pros. Donc,
Et tu pouvais accompagner aussi une partie des joueurs que tu avais formés, je suppose.
Alors. Exactement. Mmh. C'était aussi ce qui était intéressant.
D'accord. Et tu as eu l'opportunité du coup de travailler avec quelques pépites, tu peux nous donner quelques noms?
Fégouli, Taider, Thauvin, Olivier Giroud, Attila Turan, Ruben Aguilar, il y en a eu quelques-uns.
Quelques beaux mondes et un champion du monde. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été justement l'un des entraîneurs de Olivier Giroud, qui aujourd'hui est champion du monde, qui a une carrière fantastique?
Giroud et Thauvin.
Et Thauvin aussi, bien sûr. Oui, on n'en a pas parlé, mais il y avait Thauvin aussi. Hein.
Alors Giroud, c'est un peu particulier, parce que je ne l'ai pas eu beaucoup, je l'ai eu avec l'équipe réserve. de Grenoble, quelques matchs avant qu'il parte, avant qu'il parte pour Tours.
Pour Tours,
Mais je le connaissais déjà depuis qu'il était en saison nationale à Grenoble, parce que moi j'entraînais 14 ans, mais j'allais voir souvent les jeunes jouer.
Oui.
Et puis c'était un gamin du cru, donc j'avais de bons rapports avec lui, surtout avec son frère, avec Romain. Mais c'était plus particulier avec Thauvin, parce que Flo, c'est moi qui suis venu le chercher au Pôle Esport de Châteauroux.
Ah, d'accord.
Ouais, donc c'est moi qui l'ai fait signer à Grenoble et j'ai vu son évolution et je l'ai eu un peu plus lui avec les saisons nationaux, avec l'équipe réserve, donc j'avais des rapports un peu plus proches avec Thauvin, même si je m'entends super bien avec, avec Olivier, quoi. Même si aujourd'hui je suis plus en contact avec Olivier qu'avec Thauvin.
C'est vrai ? Ah d'accord,
ouais,
ok. D'accord. C'est quand même une histoire extraordinaire, Olivier Giroud, je trouve, parce que moi, qui pareil, allais voir Grenoble quand j'étais minot, à l'époque, c'était même à l'hôtel au stade Lesdiguières. Moi, jamais j'aurais pensé que Giroud ferait une carrière comme ça, parce que c'était un joueur qui avait quand même pas beaucoup de temps de jeu. Quand tu le voyais jouer avec le groupe pro, ça avait pas l'air d'être quelqu'un qui sortait du lot, comme à l'époque, quand Fégouli, par exemple, a commencé à exploser. On s'est dit, waouh, super. Même Thauvin aussi avait quand même quelque chose. Et au final, qu'est-ce qui a fait que, selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'Olivier Giroud est devenu Olivier Giroud qu'on connaît aujourd'hui?
Bah déjà, c'est un bosseur. C'est un énorme travailleur. Olivier, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est devant le but, c'est un fauve devant le but. Dans tous les petits jeux qu'on pouvait faire, l'entraînement, il jouait que pour marquer. Il était obsédé par le but. Et puis, il a un profil atypique, Olivier. Voilà, il a un profil atypique. Il est costaud, il cale, il est bon dos au jeu.
Il sait travailler pour les autres aussi. Moi, je trouve que c'est ça, sa plus grande force aujourd'hui, c'est qu'il est capable de marquer, effectivement, d'avoir ce sens du but, mais aussi de pouvoir se sacrifier, s'effacer pour le collectif.
Exactement. Il pèse sur les défenses, il pèse énormément. Et puis, bon, il marque des buts quand même. Donc, je vous avoue que même nous, on l'avait au centre de formation. Nous, on pensait qu'il pouvait faire une carrière pro. Voire peut-être Ligue 1, mais on n'imaginait pas le voir à ce niveau-là.
Oui, bien sûr.
C'est à force de travail et son profil atypique qui fait qu'il est à ce niveau-là.
D'accord. Olivier, on remonte un petit peu le temps, tu vois, petit à petit, on est passé d'Olivier joueur, Olivier du coup qui a pris la réserve de Grenoble, et puis finalement tu deviens entraîneur de cette équipe, entraîneur principal au plus mauvais moment quasiment, parce que finalement tu prends la relève quand le club est au plus bas, tu confirmes ?
Ouais, c'est au plus mauvais moment, mais je me dis c'est...
c'était le bon moment pour toi ?
Ouais, parce que j'ai eu la chance de reconstruire ce club. On est parti vraiment avec très peu de moyens et on a repris la saison 15 jours avant la reprise du championnat, quoi. Hein, donc il n'y avait pas d'équipe. Donc pour rappel, quoi, le premier match à Corté en Corse en CFA 2, on y allait à 12 joueurs et 3 gardiens de but. Donc il y avait un gardien de but remplaçant et un autre dans le champ, quoi.
Donc, sympa.
Donc et on gagne 2-0 en Corse. Donc non, c'est je me dis en tant qu'ancien Grenoblois, être là à la base de la reconstruction de ce club, pour moi ça a été un honneur de faire ça. Ça m'a pris beaucoup, ça m'a coûté personnellement, je dirais pas au niveau de la santé, mais j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de stress. J'ai perdu aussi du temps avec mon diplôme parce qu'à l'époque j'aurais pu passer le BEPF où on m'aurait accepté plus facilement. Mais j'avais pas le temps de partir à Clairefontaine, passer le diplôme et de m'occuper de la reconstruction du club. J'ai préféré reconstruire le club. Donc ça m'a coûté personnellement, à titre personnel, mais ça m'a apporté tellement de joie et de bonheur. Et aujourd'hui, quand je vois le club où il en est et que je me dis, bon, j'ai pris part à cette reconstruction, j'en suis fier parce que, en plus, les gens me le rendent bien, quoi, les supporters me le rendent bien.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Je suis fier d'avoir été là à la base de ce projet, quoi.
Merci. Je me permets en mon nom à moi, mais un petit peu aussi au nom de certains supporters qui nous écoutent, de te dire merci parce que quand Grenoble est descendu en CFA2, c'était la fin de tout à Grenoble. Je me souviens de cette période qui était absolument horrible. On était monté tellement haut avec cette Ligue 1, avec une première saison en Ligue 1 qui était magnifique, et on est descendu tellement bas très vite et très brutalement que je me suis dit qu'on se relèverait pas, en tout cas aussi vite et pas aussi bien. Et heureusement qu'il y a eu des personnes comme toi. J'ai eu aussi la chance d'avoir dans cette émission Lucas Pouliquen il y a pas très longtemps au téléphone. J'ai eu aussi Selim Ben Griba, qui m'ont parlé bah, forcément de toi et puis de ces années où ils ont été aussi présents. Franchement, bravo, parce que ça ne devait pas être facile, parce que quand on redescend comme ça, repartir de rien, et tu me confirmes avec cette fameuse anecdote du match en Corse, ça devait pas être facile. Donc,
c'était compliqué.
Ouais, j'imagine. Et du coup, bon, je me permets quand même de te poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, tu finis par quitter le club un peu brutalement après une non-accession en national, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Bah, si tu veux, on monte donc la première année là, haut la main en dominant le championnat de CFA2.
Ouais.
Et on se retrouve dans la poule à Strasbourg.
Ouais.
La première année de CFA. Ouais. Où logiquement on aurait dû monter parce qu'on nous a retiré 3 points sur tapis vert.
Ouais.
Donc à l'époque, ben, je pense que les instances ont tout fait pour faire monter Strasbourg.
Ouais.
Donc une grosse déception cette année-là parce qu'on aurait pu enchaîner sur une montée en national.
Ouais. Et ce qui est rageant parce que Strasbourg aujourd'hui est en Ligue 1, en plus bien installé en Ligue 1.
Exactement.
C'est dingue. Hein.
Ouais. Ouais. On aurait pu nous connaître ça, donc beaucoup de frustration là, d'incompréhension là, sur cette année-là, donc où on aurait dû monter. Et puis après les deux autres années où on monte pas, pour un point, voilà, une fois avec Béziers, une fois avec Marseille Consola, où on se retrouve dans la poule du Sud, où on sait très bien que les derniers matchs, y a pas mal d'arrangements entre équipes du Sud. On ne monte pas, surtout la dernière année, on sort Marseille en Coupe de France. À l'époque, on est premier quand on sort Marseille, on a 3-4 points d'avance. Et puis quelques joueurs se sont un peu enflammés. Et puis on s'est retrouvés un peu en difficulté. On ne monte pas, je crois, pour un point face à Béziers. Et je me dis, je viens de faire 3 années de CFA, où la première année on devait monter, les deux autres ne montent pas pour un point. J'avais plus envie de refaire une autre année et puis
C'est toi qui as pris la décision de partir du coup?
Ouais, les dirigeants tout de suite après le match, le dernier match où on reçoit Saint-Priest où on gagne 2-0 je crois contre Saint-Priest, mais dans le même temps Béziers avait gagné à Monaco sur un penalty apparemment en plus imaginaire, donc on monte pas sur encore un coup du sort.
Ouais.
Et tout de suite après le match, je suis allé voir les dirigeants en leur disant que j'arrêtais, quoi. À un moment donné, il faut savoir aussi s'effacer et laisser la place à quelqu'un d'autre, emmener du 109, emmener d'autres personnes pour prendre le relais. Parce que j'avais fait 4 ans en éprouvante et j'avais envie de souffler un peu, de me concentrer aussi sur le fait de pouvoir passer mon diplôme et de connaître autre chose.
D'accord, ok. Bon, c'est dommage que cette histoire ne soit pas mieux terminée entre guillemets par une accession directement au niveau national, parce que quand on regarde tout ton parcours qu'on vient de retracer et quand tu sais que tu es d'ici, tu es né à Saint-Martin-d'Hères, tu fais toute ta carrière une grosse partie de ta carrière de joueur à Grenoble et toute ta carrière d'entraîneur en plus en partant des fédéraux 14 ans jusqu'à l'équipe première. Tu regrettes quelque part d'être parti ou aujourd'hui tu te dis non, c'était la bonne chose à faire?
Non, je pense que c'était le bon moment. C'était le bon moment de partir. Ouais, le seul regret, c'est de ne pas pouvoir de ne pas être monté en national, parce que je pense que si on avait enchaîné la montée comme on aurait dû le faire, l'année où Strasbourg est montée, donc notre première année de CFA. Je pense que si on était monté en national, on aurait même pu enchaîner sur une montée en Ligue 2. Parce que j'avais pas les pleins pouvoirs, mais il y avait Trottignon qui venait d'arriver au club, avec qui j'ai travaillé à Châteauroux et qui est un formidable dirigeant. Donc, si on avait pu monter en national, je pense qu'on aurait, on aurait enchaîné parce qu'il y avait des projets, on avait déjà commencé à regarder sur le recrutement. On voulait vraiment pérenniser ce groupe, on avait un groupe de qualité, il n'y a qu'à voir la plupart des joueurs où
ils sont aujourd'hui en Ligue 2,
il y avait vraiment quelque chose à faire, donc c'est vrai que c'est mon gros regret de ne pas être monté en national avec mes gars, mais aujourd'hui c'est comme ça. Et puis le fait d'être resté en CFA, je pense que ça a été une bonne décision de ma part.
Bien, bah en tout cas, merci Olivier pour ces premières réponses. On va marquer une courte pause. On va passer à un petit morceau que tu apprécies en ce moment avant de démarrer le jeu du question-réponse. Quel morceau tu veux qu'on diffuse?
Une chanson que j'aime bien en ce moment qui passe en boucle, là, c'est The Weeknd, c'est ça là? Ah, je ne
Ouais,
suis pas
la
très fort en
Blinding
anglais.
Lights.
Voilà, là tu prononces mieux que moi.
Bon, bah, c'est parfait. Moi, j'aime beaucoup ce morceau en
Ouais,
plus.
moi aussi.
Allez, on
Parfait.
diffuse direct le morceau. À tout de suite sur RKS.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.